Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 20h30. Tout de suite, le feuilleton.
Bonsoir, toute cette semaine, en direct du studio 111 de la Maison de la Radio, un feuilleton dédié à la Première Guerre mondiale à travers deux grandes voix de la littérature qui en furent les acteurs et les témoins de part et d'autre de la ligne de front. Pour commencer ce soir, demain et après-demain, une lecture d'extraits de « Ceux de 14 » de Maurice Genevoix, publié entre 1916 et 1923 à partir de notes prises sur le vif au jour le jour au fond des tranchées entre deux assauts. Jeudi et vendredi, pour lui donner la réplique, le témoignage d'un autre écrivain majeur. Observation du camp adverse, cette fois, des extraits des carnets de guerre que Ernst Jünger a tenus entre 1914 et 1918. Ceux-là même qui lui serviront après coup à écrire un des tout premiers témoignages littéraires sur la Grande Guerre. Orage d'acier qui sera publié en 1920. Quand la guerre éclate, Maurice Genevoix a 23 ans, Ernst Jünger 19. Tout de suite et en direct, écoutons Maurice Genevoix porté par la voix de Yann Colette.
Yann Colette et Marc Perron à l'accordéon diatonique. Ceux de 14 de Maurice Genevoix.
Jeudi 10 septembre. Des frôlements doux sur la figure. Ce sont des gouttes de pluie, larges, tièdes. Ai-je dormi? Quelle heure peut-il être? Le vent se lève, la nuit est noire, toujours. Je distingue vaguement, un peu à droite et devant ma tranchée, un gros tas sombre, des bottes de paille amoncelées, dans lesquels sont enfouis le commandant, le capitaine et leurs agents de liaison. Je vais essayer de me rendormir lorsque quelques balles sifflent au-dessus de moi. Il m'a semblé qu'elles étaient tirées de tout près. Pourtant, il y a du monde devant nous. Je sais que ma compagnie réserve des avant-postes. Alors, je n'ai pas le temps de chercher à comprendre. Brusquement, une fusillade intense éclate, gagnant de proche en proche tout le long de la ligne, avec une vitesse inouïe. Les détonations claquent aigrement. Aucun doute, ce sont les Boches qui tirent. Nous sommes attaqués. « Debout tout le monde, debout !»« Allons, debout !» Je secoue le caporal qui dort près de moi. D'un bout à l'autre de la section, c'est un long bruit de paille froissée, puis des baïonnettes teintes, des culasses cliquettes. Je me rappelle que j'ai vu le commandant et le capitaine descendre dans la tranchée, à ma droite, et qu'aussitôt, des silhouettes noires se sont profilées à la crête, toutes proches, à peine visibles sur le ciel sans clarté. Elles n'étaient pas à 30 mètres quand j'ai aperçu les pointes des casques. Alors j'ai commandé, en criant de toutes mes forces, un feu à répétition. Juste à ce moment, des clameurs forcenées jaillissaient de cette masse noire et dense qui s'en venait vers nous.
« Hurrah ! Hurrah ! Vorwärts ! »
Combien de milliers de soldats hurlent à la fois ? La terre molle frémit du martèlement des bottes. Nous allons être atteints, piétinés, broyés. Nous sommes 60 à peine. Notre ligne s'étire sur un seul rang de profondeur. Nous ne pourrons pas résister à la pression de toutes ces rangées d'hommes qui foncent sur nous comme un troupeau de buffles. Feu à répétition ! Feu ! Et mes soldats autour de moi me disent « Attention, mon lieutenant ! Voyez-les, ils se couchent ! Non, les amis, non, non, ils tombent ! Et je piétine en proie à une exaltation qui touche à la folie. Je répète « Feu ! Feu !» Je crie « Allez ! Allez ! Mettez-y en ! Allez, allez, feu !» Mes hommes manœuvrent les culasses d'un geste sec, mettent en joue, à peine, et lâchent le cou en plein tas. Ils tombent là-dedans par paquets. Le vide grandit. Il n'y a plus personne devant nous, mais les ombres se massent vers la droite et la gauche. Elles vont déborder la tranchée, l'envelopper. Rien là-bas pour endiguer cette coulée incessante. Nous autres, nous n'avons pu que l'arrêter un moment, la faire refluer vers les côtés. L'immense houle va se refermer derrière nous. ce sera fini.
Hourra ! Fort verte !
Ils s'excitent en hurlant, les sauvages. Leurs voix rauques s'entendent à travers la fusillade, déchiquetées par les détonations pressées, charriées par le vent avec les rafales de pluie. Vent furieux, pluie forcenée, il semble que la rage des combattants gagne le ciel. Et tout à coup, une lueur brutale jaillit, allumant des reflets jaunes aux ornements de cuivre et aux pointes des casques, des reflets pâles aux lames des baïonnettes. Ils ont mis le feu aux gerbes sur lesquelles le commandant et le capitaine dormaient tout à l'heure. La flamme vive se tord, rase le sol, bondit à chaque sursaut de la bourrasque, et les gouttes de pluie volant à travers l'incendie semblent des gouttes de fonte ardente. Des éclairs giclent, déchirent le ciel entre les nuées, strient l'horizon de zébrures violâtres. Mes soldats ont des faces pâles, ruisselantes d'eau. Leurs yeux, sous les sourcils froncés, se plombent d'un cerne lourd qui fait plus aigu leur regard fixe, où s'exprime intensément la volonté de frapper, de tuer, pour continuer à vivre. La première escouade, face à droite. M'entendront-ils ? Face à droite ! Ils n'entendront pas. Les coups de fusil crépitent sans arrêt. Le vent mugit. La pluie cingle en faisant sonner les gamelles et les plats de campement. Mêlés au grondement de l'orage, la clameur des voix humaines emplit le champ de bataille. « Laisse-moi passer, toi !» J'écrase l'homme contre le parapet. « Laisse-moi passer !» Je me suis mis à courir vers les chasseurs. Devant moi, autour de moi, des ombres rapides et toujours les mêmes cris.
« Hourra ! Fort verte !»
Je suis entouré de boches. Il est impossible que j'échappe, isolé ainsi de tous les nôtres. Pourtant, je serre dans ma main la crosse de mon revolver. Nous verrons bien. J'ai buté dans quelque chose de mou et de résistant qui m'a fait piquer du nez. Peu s'en est fallu que je me sois aplati dans la boue. C'est un cadavre allemand. Le casque du mort a roulé près de lui. Et voici qu'une idée, brusquement, me traverse. Je prends ce casque, le mets sur ma tête, en me passant la jugulaire sous le menton, parce que la coiffure est trop petite pour moi, et tomberai. Course forcenée vers les lignes des chasseurs. Je dépasse vite les groupes des boches, qui flottent encore, disloqués par notre fusillade de tout à l'heure. Et comme le boche, je crie «
Hourra ! Fort verte !»
Et comme eux, je marmotte un mot à quoi ils doivent se reconnaître, en pleine ténèbre, et qui est
« Heiligtum !»
La pluie me cingle de visage, la boue colle à mes semelles, et je m'essouffle à tirer après moi mes chaussures, énormes et pesantes. Deux fois, je suis tombé sur les genoux et sur les mains, tout de suite relevé, tout de suite reprenant ma course, malgré mes jambes douloureuses et mollissantes. Chantante et allègre, les balles me dépassent et filent devant moi. Un Français, sautillant et geignant. « C'est toi, Letty ?»«
Oui, mon lieutenant. » »«
J'en ai une dans la cuisse. »«
Eh, bon courage ! Nous arrivons !»
Déjà, il n'y a plus de braillard à voix rauque. Ils doivent se reformer avant de repartir à l'assaut. Alors, je jette mon casque et remets mon képi que j'ai gardé dans ma main gauche. Pourtant, avant de rallier les chasseurs, j'ai rattrapé encore 3 fantassins allemands, isolés. Et à chacun, courant derrière lui du même pas, j'ai tiré une balle de revolver dans la tête ou dans le dos. Ils se sont effondrés avec le même cri étranglé. Ça a été la première occasion. La seconde et dernière aux Éparges, le 18 février au matin, où j'ai senti, en tant que tel, la présence et la vie des hommes sur qui je tirais. Heureusement, ces occasions étaient rares. et lorsqu'elle survenait, elle n'admettait guère qu'un réflexe, à défaut de retour sur soi-même. Il s'agissait de tuer ou d'être tué. Nous sommes à peine mis en marche que des balles chantent. Et tout aussitôt, c'est une fusillade nombreuse dont le crépitement soudain emplit la plaine. « Ils remettent ça, mon lieutenant, » me dit Chabot. Là-bas, sur la gauche, une ligne de tirailleurs, 20 et quelques hommes, semble-t-il, ce qui reste d'une section. Ils marchent, le fusil à la main, courbés sous les balles, à grands pas rapides. Devant eux, un officier maigre, barbu, d'allure jeune. N'est-ce point Porchon ? J'oblique vers lui à toute allure. Oui, c'est Porchon, il m'a vu, il vient vers moi. Il a, en m'abordant, la question que j'allais lui poser. Sais-tu où est le capitaine ? Non, tu le cherches ? Toi aussi ? Allons ensemble, mon vieux. Et nous voilà partis, nos hommes derrière nous, en tirailleurs, pendant que les balles sifflent et claquent. Ayant tourné la tête par hasard, je vois un officier assis au milieu d'un champ, à même la terre, détrempé. Il agite le bras vers nous. J'ai l'impression qu'il nous hèle, mais la fusillade déchaînée empêche sa voix de nous atteindre. Je fais quelques enjambées en courant, et soudain, je reconnais le colonel. Alors je crie à Porchon, à plein gosier, « C'est le colo ! Je vais voir. Prends mes hommes en attendant. Tu entends ?» Il secoue deux ou trois fois la tête, de haut en bas, et repart de la même allure, rapide, marchant résolument vers le sommet de la crête, au-delà de laquelle on sent la mêlée. Je salue le colonel et me présente. Je dis « sous-lieutenant de réserve ». Il sourit et, regardant une flaque dont une balle vient de faire gicler l'eau boueuse, « réserve active ». Est-ce que les balles distinguent ? Puis il me dévisage longuement, comme s'il voulait d'un coup peser ce que je vaux, et m'explique d'une voix nette ce qu'il attend de moi. Je n'ai plus d'agent de liaison. Tous sont en mission ou hors de combat. Il faut que vous trouviez le plus vite possible le colonel de G qui commande la brigade, et que vous le demandiez, en mon nom, de faire donner tout de suite tout ce qu'il pourra du 132e. Dites-lui bien que nous sommes aux prises avec des effectifs énormes, que nos pertes sont extrêmement lourdes, et que je ne sais pas jusqu'à quel point mon régiment est désormais capable de tenir. Il doit être vers la côte 281, à 1 kilomètre au nord de Marat-la-Petite. Faites tout pour le trouver, ne perdez pas une minute, et insistez sans crainte sur l'urgence de renfort immédiat. Bien, mon colonel. Je cours, pendant que les balles sifflent à mes oreilles et font jaillir la boue autour de mes jambes. À 7 minutes encore, je me sens soulevé, jeté en avant, par une force qui n'est plus en moi. Il faut trouver le commandant de la brigade, lui parler, provoquer l'ordre nécessaire. Je ne mesure pas le poids de ma responsabilité, mais je la sens lourde. Et l'ardente volonté de réussir me possède tout entier. Courant déjà, j'ai vu le colonel recevoir une balle dans un bras. De l'autre bras, il m'a fait signe d'aller. Courant au long d'une dure montée, j'ai traversé une zone infernale où des centaines de balles ronflaient et piaulaient au ras du sol, ou piqué dans la terre, avec un froissement bref. Je suis passé en courant près d'un groupe d'hommes arrêtés au pied d'un arbre. Au milieu d'eux, adossé à l'arbre, un officier mourant. J'ai pu entrevoir, dans le bleu sombre des vêtements de drap larges ouverts, la chemise tachée de sang clair. La tête du blessé s'abandonnait sur son épaule et j'ai reconnu, ravagé, blêmi, éteint par l'agonie, le visage de mon commandant. J'avale une longue gorgée d'eau-de-vie rude et je m'en vais, tout droit vers les 75 qui donnent de la gueule, avec Ensemble, dans le bois. J'arrive au milieu d'artilleurs, littéralement soulevés de joie. Ils manœuvrent avec une vitesse, une précision, un entrain qui me frappe. À peine le temps d'apercevoir le petit obus que prolonge la douille de cuivre, ça file devant les yeux comme une mince ligne rouge et jaune qui tout de suite s'évanouit dans la culasse, encore fumante, du dernier départ. Et, la seconde d'après, le canon lance son paquet de mitraille avec un coup de gueule impérieux, dans la gloire de la flamme qui jaillit, de la fumée qui flotte comme un panache. Les artilleurs se démènent, courent, sautent, gesticulent autour de leur pièce. Beaucoup ont jeté bas leur veste et relevé au-dessus des coudes leur manche de chemise. Tous s'amusent, blaguent, rient bruyamment. Avec des vêtements boueux, ma face lugubre, je me fais l'effet d'un hibou qui tomberait sur une bande de moineaux francs. Mais cette allégresse de tous, peu à peu, s'insinue en moi, comme une contagion bienfaisante. J'ai l'impression qu'en ce moment même, quelque chose se passe de très heureux, de très exaltant. Et je demande à un lieutenant qui observe la jumelle en frémissant de tout son corps. « Ça va ?» Il se tourne vers moi. La joie qui lui emplit la poitrine éclaire son visage. Il a un rire de bonheur exubérant. « Si ça va, mais ils ne tiennent plus !» Ils foutent le camp comme des lapins. Il rit encore. Écoutez-les, nos 75. Pas redoubler. Boum. Boum. C'est la conduite, ça. De grands coups de botte dans les fesses. Un capitaine d'état-major, à pied, regarde les artilleurs endiablés et rit lui aussi et répète plusieurs fois à voix très haute. Bon. Bon. Je me précipite vers lui. Je lui dis en quelques mots ce qui se passait il y a une demi-heure vers la Vaumarie, la route des Rises. Je lui dis les paroles de mon colonel blessé, ma course, ma joie d'arriver au but, et j'ajoute « Je voudrais voir quand même le colonel de G, puisque c'est à lui qu'on m'a envoyé. » Le capitaine me regarde longuement, avant de répondre et doucement « Allez vous reposer. On n'a plus besoin du 132. On n'a plus besoin de vous. C'est parti Garnier. Vous avez fait de belles choses. » Et il m'apprend que mon régiment, retiré de la ligne de feu, se reconstitue un peu en arrière, au calme. Il me montre sur la carte le point de rassemblement et me tend dans sa main grande ouverte. « Au revoir, lieutenant, me dit-il. Dormez bien. Mangez bien. Prenez des forces. Il va falloir être d'attaque pour courir aux semelles des boches. » Je demande, avec un battement de cœur, « Alors, mon capitaine, c'est une grande victoire ? » ?»« Je ne sais pas. Pas encore. Mais sûrement, oui. Si tous les fantassins du front ont marché depuis dimanche comme ceux du corps d'armée. » Une houle de joie me bouleverse. Un élan très fort et très doux, fervent, religieux. Que ce soit vrai. Que ce soit vrai. L'effroyable tension nerveuse qui me tenait crispée depuis des heures a cassé tout d'un coup. Je me sens très petit, très faible, avec un grand désir de pleurer longuement, sans contrainte. De la 5e compagnie, de la 6e, ne reste que quelques survivants. Une quinzaine de la 5e, un peu plus de la 6e. Plus un seul officier. Ils étaient cette nuit en avant de nous. Les ténèbres, la bourrasque, la pluie ont permis aux boches de tourner leurs tranchées, repérées pendant la journée par les grands oiseaux à croix noire. Ce fut un massacre à l'arme blanche. La dégoûtante besogne d'assassins qui surinent dans le dos. Ces boches étaient du 13e corps d'armée, la plupart Württembergeois. On les avait saoulés d'alcool et d'éther, les prisonniers l'ont avoué. Ils s'attendaient à être fusillés. Leur chef avait osé, pour raidir encore leur courage, leur affirmer cette vilenie. Beaucoup avaient dans leur sac des pastilles incendiaires. Plusieurs de mes hommes m'ont affirmé en avoir vu qu'ils prenaient feu de la tête aux pieds lorsqu'une balle les atteignait et continuaient à flamber comme des torches. Marche à travers des champs inondés ou par des chemins de terre dont les ornières reflètent le ciel pâle. Je suis en queue de compagnie, avec le capitaine qui va de son grand pas lent, rythmé au choc contre les cailloux de son inséparable pic. Deux prisonniers marchent à côté de nous. Halte à la lisière d'un puits, d'un petit bois, en pente, au sol caillouteux. Sur les feuilles mortes du dernier automne, de place en place, luisent quelques feuilles d'un jaune pâle que la tourmente nocturne a détaché des branches. De compagnie à compagnie, les hommes se reconnaissent, s'interpellent, se félicitent avec de grands rires d'en avoir réchappé. Assis derrière les faisceaux, fangeux, harassés, ils mangent ce qu'ils peuvent. Ceux qui ont su garder au fond de leur sac une boîte de singes sont rois. D'autres rôdent à leur abord, torturés d'une convoitise qui allume leurs yeux, malades du désir de quémander et n'osant pas. Privilégiés aussi, ceux qui ont pu trouver au fond des sacs allemands les réserves de petits biscuits carrés, friables et vaguement sucrés. Beaucoup s'égayent dans les champs, reviennent avec des carottes, des raves terreuses qu'ils viennent d'arracher. Ils les pèlent avec leurs couteaux de poche et mordent à même à coups de dents voraces. Nuit glaciale et morose. Je glisse continuellement sur le terrain en pente. Les cailloux sur lesquels je suis couché font mal comme autant de blessures. Un souci me hante, celui de mon bidon, perdu par un homme qui devait me le rapporter plein d'eau et que je n'ai plus revu. Plus de bidon. C'est un malheur.
C'était Maurice Genevoix, Ernst Junger, Regard croisé sur la Grande Guerre. Un feuilleton en direct du studio 111 de la Maison de la Radio. Aujourd'hui, ceux de 14 de Maurice Genevoix. Extrait choisi et lu par Yann Colette. Accompagné par Marc Perron à l'accordéon diatonique. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, Olivier Dupré, Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Claude Guerre. Ceux de 14, de Maurice Genevoix, est publié aux éditions Flammarion.